Vaste sujet. Alors, la revue Contretemps s'est pas mal intéressée au vaste sujet en question. C'est-à-dire qu'on avait fait un dossier en s'appuyant il y a quelques années sur la sortie du livre de Jacques Julliard, Les gauches en France. On a fait un numéro qui était intitulé Gauche, état de crise. Et puis plusieurs dossiers sur les gauches radicales en Europe. Alors, gauche, état de crise, je pense que. On est en plein dans le sujet, hein, c'est-à-dire que ça sera mon premier point, quelques réflexions sur cette notion de crise. Alors pas un descriptif faisant le tour des différentes organisations de gauche et de leurs crises spécifiques, mais quelques réflexions plus générales sur pourquoi cette notion de crise par rapport à la gauche. Un deuxième sur quelques éléments plus structurants par rapport à l'actualité, puis s'il me reste du temps, quelques approches par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, sur le premier point, quand on dit crise à gauche, crise de la gauche, crise des gauches, il me semble que maintenant on en est à une situation où c'est la notion même de gauche qui est mise en cause, qui est contestée, qui fait problème. Hein, on s'interroge sur est-ce que cette notion a encore une validité et donc est-ce que le clivage gauche-droite a encore une pertinence. Alors, il me semble que sur ce point, il faut se rappeler que ce soit le clivage gauche-droite ou la référence à gauche, dès l'origine, elle a été contestée à droite et à l'extrême droite. Du côté de la droite, de manière à l'origine, il y a cette idée que l'opposition qui est celle vue par la gauche, l'opposition entre progrès social et conservatisme social, était lue par la droite, par la sensibilité de droite, était lue en fonction d'une autre répartition qui était ordre et désordre. Hein, c'est-à-dire que la droite, c'est le parti de l'ordre et tout ce qui se réfère à la gauche, au changement social, au progrès social, c'est le désordre. Hein, donc, cette idée que, dès l'origine, de la part de la droite, parce qu'il me semble que quand on discute de la gauche, il ne faut jamais oublier la droite, de la part de la droite, il y avait cette délégitimation politique de la référence à gauche. Dont on voit aujourd'hui, alors ça a été apprivoisé à travers le parlementarisme, le jeu politique classique, mais il en reste quand même des traces, même à toute petite dose, dans l'idée que même quand c'est le Parti Socialiste, pourtant Dieu sait qu'il n'est pas un chaud artisan de la transformation sociale, même quand il s'agit du Parti Socialiste, il y a cette idée qu'il n'a pas de réelle légitimité à exercer le pouvoir, que seules les forces d'ordre sont à même d'exercer de façon correcte et efficace le pouvoir. Donc, une contestation qui est venue de la droite dès l'origine. Et une contestation beaucoup plus grave venant de l'extrême droite, hein, qui a toujours eu au cœur de son idéologie et de son action l'idée qu'il n'y a pas de pertinence de l'opposition entre gauche et droite, qu'il faut dépasser cette opposition. À l'origine, enfin, dans la matrice idéologique du fascisme, en particulier du fascisme français, hein, il y a cette idée qu'ils sont ni gauche ni droite, hein, que cette opposition n'a pas de sens et qu'il faut y substituer des références à la révolution nationale, au national-socialisme pour certains, hein, c'est-à-dire ces oxymores, à nos yeux, ces oxymores, hein, qui ont cette fonction maniée par l'extrême droite de bannir l'opposition gauche-droite et qu'il y a d'autres classifications qu'il faut imposer, le peuple, les chefs, la nation, brouiller cette opposition. Donc, le refus du clivage de gauche-droite et de la référence à la gauche, il est ancien et il est très très fort quand ça vient de la part de l'extrême droite, voire du fascisme. L'élément nouveau auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que cette contestation de la notion de gauche ne vient plus seulement de la droite et de l'extrême droite, qu'elle existe à gauche. Alors on dira, est-ce qu'il y a une contestation de gauche, de la gauche ? c'est à discuter, mais ce qui est sûr, c'est qu'à gauche existe cette contestation, et pas par quelques uluberlus qui s'agiteraient dans leur coin. On a vu que certaines forces importantes, voire révolutionnaires en Amérique latine, qu'en Espagne, dans Podemos, en France, dans le front de gauche, de la part de certaines sensibilités du front de gauche, il y a cette idée que ce clivage n'est plus pertinent et qu'il ne faut plus utiliser cette notion de gauche. Avec l'idée que, en France, la gauche, c'est le Parti socialiste n'est plus de gauche, et que donc la notion de gauche doit être écartée, n'a plus d'efficacité, et un petit peu en analogie ou en similitude avec ce qu'on a connu venant de forces qui sont à l'autre bout de l'échiquier politique, on voit qu'il y a une recherche d'une autre opposition, d'un autre clivage, qui serait le clivage entre le peuple face à la caste, à l'oligarchie. On voit que ces notions aujourd'hui sont pas mal utilisées pour se surimposer sur le clivage classique entre gauche et droite. Et avec cette idée qu'il y a d'autres clivages qui sont plus pertinents que ceux de la gauche et de la droite. Et là, on en est vraiment dans l'actualité, hein, l'Union européenne, le positionnement par rapport à l'euro, les questions d'écologie, ou le positionnement par rapport à la défense de la démocratie face au fascisme. Enfin, toutes ces questions-là, souvent, sont posées de manière à dire... Elle n'entre pas dans une grille qui est la grille gauche-droite. Et c'est souvent vrai, d'ailleurs, pour beaucoup de ces problèmes-là. Donc, on a une complexité qui s'est créée. Alors, dernier élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il me semble que ce qu'il faut craindre, c'est un effet de couple entre ces contestations qui viennent de la droite et de l'extrême droite, et ces contestations qui existent et qui viennent de la gauche elle-même pour contester la notion de gauche. Et on voit qu'aujourd'hui, tend à s'affirmer, parfois à prendre le dessus, l'idée que si on est radical, c'est qu'on dénonce le système, plus que de dénoncer le capitalisme, qui était notre référence classique. Et le système, c'est souvent, pour beaucoup, le capitalisme, mais c'est pas seulement le capitalisme, et parfois c'est pas principalement le capitalisme. Et quand on conteste, ça se superpose à ça, quand on conteste la classe politique, par exemple, cette notion de classe politique, c'est pas simplement l'opposition classique entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. C'est le système avec une classe politique qui traverse les clivages habituels. Donc, et dernier élément, cette idée qu'il faut trouver pour le changement social, qu'il faut trouver des ressources qui sont autres que celles que proposait traditionnellement la gauche, qu'il faut aller chercher ces ressources dans les classes populaires avec les difficultés d'orientation politique qui traversent aujourd'hui les dites classes populaires. Donc, il me semble que quand on prend tous ces éléments, on voit que la notion de gauche est en effet en crise. Et qu'elle n'est plus le moule sur lequel on pouvait s'appuyer, la référence qui faisait sens, mais qu'on a quelque chose qui est devenu problématique et qui appelle interrogation. Deuxième idée que je voudrais avancer dans notre réflexion collective, c'est que cette notion de gauche, du coup, telle qu'elle est contestée, sur laquelle on est amené à s'interroger, ne doit pas être un fétiche. Il ne s'agit pas de dire « ne touchez pas la gauche est sacrée, tous ceux qui la remettent en question sont des gens qu'il faut combattre ». Que la réelle notion qui peut nous servir de repère dans la confusion régnante actuellement et dans toutes les difficultés auxquelles on est confronté, c'est une notion de classe. Ce n'est pas une notion simplement au niveau politique superstructurel, que c'est la question, et que... Malheureusement, la notion de mouvement ouvrier est difficile à manier de nos jours. Mais c'est pourtant une notion, je pense, sur le plan théorique, plus intéressante, plus stable, qui apporte plus de choses que celle de l'opposition entre gauche et droite. Parce que le mouvement ouvrier, c'est le mouvement de la classe, dans ses profondeurs et dans sa recherche de traduction sociale et politique au combat qui est le sien. Que si on élargit le champ de vision à cette notion de mouvement ouvrier, on retrouve la classe et on voit que cette classe a des expressions politiques multiples au cours de l'histoire, qu'elle s'est dotée d'organisations et de références théoriques, idéologiques qui sont multiples. Que c'est ce mouvement ouvrier qui a été amené au cours de son histoire à se poser le problème de quel prolongement de son combat au plan social, au plan politique institutionnel, au plan parlementaire, et de se doter des instruments qui lui permettent d'intervenir sur ce champ parlementaire. Donc les élections, les institutions, la participation aux institutions. Et du coup, au cours de son histoire, d'accepter quelque chose qui n'était pas donné immédiatement et qui a créé des divisions, qui était d'accepter la République. Et pas simplement la République sociale qui était au cœur du combat de la classe ouvrière et du mouvement socialiste, première formule, mais l'acceptation de la République dans ses mécanismes parlementaires et institutionnels. Et donc de se poser le problème des alliances politiques avec des forces qui n'étaient pas des forces appartenant au mouvement ouvrier, qui ne se référaient pas à la classe ouvrière, qui étaient des forces républicaines de progrès. Donc, c'est au plan parlementaire qu'on a vu s'instaurer cette division entre des républicains conservateurs anti-ouvriers, et quand on dit anti-ouvriers, c'était des fusilleurs, c'était des massacreurs, hein, qui n'avaient pas hésité à massacrer la classe ouvrière, et des républicains progressistes, avec des partages qui pouvaient se faire à des moments délicats, hein, de façon difficile, mais des républicains de progrès avec lesquels on pouvait s'allier au plan parlementaire pour imposer un certain nombre de réformes, réaliser un certain nombre de défenses des intérêts ouvriers. Et de ce point de vue, l'affaire Dreyfus a été un moment absolument clé, hein, dans cette définition d'une gauche qui est une gauche de progrès, qui n'est pas simplement le mouvement ouvrier, mais qui est aussi une partie du mouvement ouvrier qui accepte ses alliances politiques avec des républicains. Une autre partie du mouvement ouvrier refusant de s'inscrire dans ce jeu parlementaire des institutions et faisant sécession. Hein, et ce sont des courants qui existent encore, de refus des élections, de refus de s'inscrire dans les institutions. Donc c'est à partir de là qu'on a cette notion de la gauche, qui, me semble-t-il, doit être perçu comme problématique dès l'origine, que ce n'est pas une donnée naturelle, une essence, c'est quelque chose qui s'est imposé à travers le combat historique et politique, et en fonction de clivages par rapport à la droite, qui sont des clivages mouvants, évolutifs, selon les moments. Et il me semble qu'un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que cette histoire parlementaire française, pendant très longtemps, a été dominée par un mouvement qu'on a dit de sinistrisation, hein, c'est-à-dire de glissement progressif vers la gauche. Et aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait inquiétante et paradoxale, qui est un mouvement de droitisation. Hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau du champ parlementaire, du champ institutionnel, c'est plutôt un mouvement vers la droite, hein, qui touche l'ensemble du champ et qui donc a des conséquences sur toutes les forces politiques. Donc cette gauche, cernée de cette manière-là, elle a une histoire, d'où la question de savoir est-ce qu'il faut dire la gauche ou les gauches, hein, qui est un réel problème. Il y a une histoire qui est une histoire mouvementée, de crise, de scission, à certains moments de risque de disparition. Hein, aujourd'hui, on dit, Valls par exemple s'est fait une spécialité de dire la gauche peut mourir. Certes, mais c'est déjà arrivé dans l'histoire. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée que la gauche est une réalité éternelle qui résiste à toutes les tempêtes. Il y a eu des moments où on pouvait se poser la question de la disparition de tout ou partie de la gauche. Hein, qu'on pense à ce qui s'est passé en 14 avec l'Union sacrée, la guerre, qu'on pense à tout ce qui s'est noué autour du colonialisme, en particulier au moment de la guerre d'Algérie, qu'on pense au positionnement extrêmement antagonique qui existe au sein de la gauche sur tous les conflits internationaux, sur la quasi-totalité des conflits internationaux. À chaque fois, il y a des épreuves de vérité qui sont des épreuves redoutables, hein, qui peuvent indiquer que cette gauche, c'est un être vivant, hein, avec sa force, mais aussi avec ses fragilités et les risques qui peuvent exister à tel ou tel moment, hein, de sa disparition. Mais j'aborde mon deuxième point. Qu'est-ce qu'on peut repérer aujourd'hui comme données qui seraient des données structurelles inédites, nouvelles, par rapport à cette histoire mouvementée, déjà très riche en expériences multiples et contradictoires? Il me semble que quand on reprend cette histoire de la gauche ou des gauches, et à l'instant ce que je disais, cette cette capacité à résister à des situations qui étaient des situations redoutables pour tout ou partie de cette gauche, il existait un pluralisme de la gauche. Personne ne percevait cette gauche comme étant la gauche de telle sensibilité politique. Il y avait une diversité extrêmement grande, un pluralisme qui était visible, qui était vécu, y compris à travers des affrontements internes extrêmement forts, qui faisaient que il y avait des recours au sein même de la gauche. Qu'une gauche se rallie à l'Union sacrée, ou qu'une gauche mène la guerre coloniale en Algérie, il y avait d'autres forces qui existaient, qui apparaissaient comme des alternatives possibles à cette politique-là, qui empêchaient de dire, voilà, la gauche est compromise définitivement et totalement dans ce désastre politique, qu'il y avait des reconstructions possibles, et que la multiplicité des courants qui existait au sein de la gauche, de l'anarchisme à la social-démocratie, en passant par la multiplicité des courants se référant aux communistes, offrait des recours, qu'il y avait cette possibilité de dire, ben voilà, on est totalement en désaccord avec ce que font ceux-là, donc on va aller soutenir le combat de ceux-ci, parce que eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas d'accord. L'autre élément qui existait précédemment au cours de l'histoire, c'était que au sein de cette, justement, c'est là où on retrouve l'intérêt de la notion de mouvement ouvrier, c'est qu'au sein de la classe elle-même, il y avait des ressources très puissantes, très fortes, qui faisaient que des remobilisations pouvaient venir de la base même du mouvement ouvrier, dans le syndicalisme, dans le mouvement associatif, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les classes populaires. C'est-à-dire qu'il y avait une dialectique positive entre la classe ou les classes populaires, le peuple et les organisations, les élites, qui faisaient que une trahison de telle ou telle élite à un moment donné pouvait être rattrapée, et pouvait y compris susciter une mobilisation venant du cœur même de la classe et donc une renaissance. Il me semble que l'élément inquiétant dans la situation actuelle, c'est que ces éléments-là ne sont plus présents, n'existent plus. D'une part, que l'on a un affaiblissement de la classe, bon, c'est tous les problèmes qui sont discutés par ailleurs, les difficultés en fonction de la désindustrialisation, de la mondialisation, de l'Union européenne, de la disparition des grandes concentrations ouvrières, des méthodes qui sont celles du capitalisme moderne, c'est ce qu'on retrouve dans la crise du mouvement associatif et encore plus dans la crise du syndicalisme, cet affaiblissement, plus le chômage, la précarité. Donc cet affaiblissement de la classe qui fait que ces ressources politiques pour rebondir dans une situation difficile sont bien moindres que ce qu'elles étaient auparavant. Même si par ailleurs, la classe ouvrière en question a une puissance sociale beaucoup plus grande que ce qu'elle était précédemment. Mais il y a ce facteur d'affaiblissement politique. Deuxième élément, et là on arrive vraiment au cœur de notre actualité, c'est ce qui se passe du côté de la social-démocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à travers cette mutation des partis sociaux-démocrates, en particulier, enfin pour ce qui nous intéresse directement, l'évolution du Parti socialiste français, qui fait que on a cette situation inédite d'un PS qui est hégémonique à gauche, ou qui est hégémonique et surtout qui est encore plus perçu comme étant la gauche. Pour la majorité des gens, quand on les interroge sur pour vous, la gauche, c'est quoi? Immédiatement, ils pensent au parti socialiste. Donc, cette perception que le PS est la gauche et que la gauche, c'est le PS. Et à quoi s'ajoutent des facteurs endogènes pour chacune des organisations en fonction de leur histoire propre? Mais il y a surtout cette réalité surdéterminante que aujourd'hui, la gauche est associée au parti socialiste. Et donc, ce fait que, compte tenu de ce qu'est la politique du Parti socialiste, de ce qu'il fait et de la manière dont c'est perçu, on retrouve une situation qui est de crise absolument généralisée de la gauche, avec cette difficulté à voir où les recours pourraient exister, et un mécanisme pervers qui fait que ces facteurs endogènes pour chaque organisation de crise spécifique sont nourris par cette situation globale et inversement. Donc quand on dit crise systémique du capitalisme, il me semble qu'en miroir, on peut parler de crise systémique de la gauche, en fonction de cette situation. Les conséquences de ça, c'est un désarroi stratégique hein, sur être de gauche et vouloir la transformation sociale. Ce qu'on disait à l'instant, on peut penser que ce besoin, ce désir, cette volonté d'une transformation sociale reste extrêmement forte à une échelle de masse. Mais le problème, c'est les moyens. Hein. C'est-à-dire, quels sont les moyens d'opérer cette transformation? Quels sont les outils efficaces disponibles pour réaliser cette transformation? On a cette contradiction, par exemple, c'est un peu anecdotique, mais c'est significatif. Dans les sondages, on voit que pas grand monde pense que le capitalisme, c'est bien. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un anticapitalisme latent qui est très très fort. Mais maintenant, si on dit comment voyez-vous la rupture avec le capitalisme, hein, ce saut hors du capitalisme, et quels sont les instruments disponibles pour faire ça, là les réponses seront sans doute, témoigneront de beaucoup moins de conviction hein, sur ce qu'il est possible de faire. Et là encore avec un mécanisme pervers, hein, qui est que plus il y a ce scepticisme sur la capacité à sortir du capitalisme, plus il y a un affaiblissement des forces politiques qui portent cette volonté de sortir du capitalisme. Donc, un affaiblissement du rapport de force entre les classes. Hein, à chaque fois, il me semble qu'il faut garder cette boussole hein, de où en sont les classes antagoniques en présence, quel est le rapport de force. Tous ces mécanismes vont dans le sens d'un affaiblissement de ce rapport de force. Et dernier élément à prendre en compte, je ne le traite pas parce que ce serait trop long, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut mettre ça en relation. Être de gauche, c'est ne pas être de droite, ça ne suffit pas. Hein. Mais c'est au moins ça. Donc, on voit que les difficultés de la gauche se traduisent à droite par un phénomène très inquiétant qui est un phénomène de radicalisation de la droite. La droite présente n'est plus la droite d'hier. Alors, il y a évidemment le phénomène massif du Front National, mais il y a aussi ce qui se joue au sein de l'ex-UMP sarkozyste, hein, cette espèce de radicalisation de la droite, hein, qui est aussi à la fois un révélateur et un accélérateur de cette réalité de l'affaiblissement du rapport de force entre les classes. Je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps. Oui, hein, pour un dernier point, je vais essayer d'aller vite. Quelques pistes sur à quel défi cette situation nous confronte. 3-4 minutes, oui. Premier défi, c'est qu'il me semble qu'il faut prendre en compte, bon, c'est pas très original, hein, mais cette réalité qui est sans doute la plus inquiétante quand on étudie ces questions-là, qui est la rupture croissante entre les classes populaires, le peuple, et la gauche, ce qui se dit de gauche dans ce pays. Hein, et que ce problème-là est le problème clé, hein, puisque on voit que le problème, c'est que aujourd'hui, une bonne partie des classes populaires voit le Front National comme l'instrument d'expression de leur colère, sans doute pas plus, heureusement, pour l'instant, hein, non pas comme un instrument de la transformation, c'est pour ça que le mécanisme, enfin, que son comportement reste principalement électoral, mais il n'empêche hein, qu'il traduit une rupture qui est une rupture mortelle pour la gauche. Hein, c'est-à-dire, contrairement à certaines théorisations antérieures de Terra Nova autour du Parti Socialiste sur l'idée la gauche pourrait se définir en se passant des classes populaires, c'est évident que c'est une perspective absolument suicidaire, hein, qu'une gauche qui n'a plus de base populaire n'a plus d'aile, n'a plus de pattes, n'a plus de bras, hein, et que donc cette question-là est évidemment décisive et que, évidemment, derrière ça, il y a toutes les questions de quelle politique opposée à l'ultralibéralisme, quelle politique opposée à l'Union européenne ultralibérale et autoritaire, quelle politique opposée à la réalité de la Ve République et à tous ces mécanismes antidémocratiques hein, qui minent la politique. Hein, donc, toutes ces questions qui amènent à se poser la question de l'alternative à une gauche qui serait représentée uniquement par le Parti Socialiste et une alternative qui ne peut pas être simplement dans la dénonciation. On est très nombreux à dénoncer le Parti Socialiste. La vraie difficulté, c'est quelle est l'alternative crédible que l'on peut opposer en termes politiques, organisationnels, à ce Parti Socialiste. Et ce qui implique sans doute de réfléchir au problème de comment on réarticule le projet social, la réalité sociale, c'est-à-dire le combat pied à pied quotidien contre le capitalisme, avec des réponses politiques, c'est-à-dire la perspective du pouvoir, Hein, c'est-à-dire que si on veut changer les choses, il faut se poser le problème du pouvoir. C'est pas simplement une lutte défensive au quotidien. Donc, quelles alliances, quelle majorité politique perspective? Et troisième élément, parce qu'il me semble que tout ça doit s'articuler, c'est bien ça la difficulté, c'est que pour avoir à la fois ces moyens efficaces du combat quotidien pied à pied, la perspective du pouvoir, il faut avoir une perspective qui est une perspective historique, une perspective de transformation sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire il faut transformer la société, ça tout le monde est d'accord, presque tout le monde sera d'accord pour dire ça, mais au profit de quelle perspective, hein, ce qu'était autrefois la perspective socialiste ou la perspective communiste, c'est pas une affaire de mots en l'occurrence, mais un projet de société qui fasse qu'on ait un avenir, que l'humanité ait un avenir. On voit que tout ça est à refonder. Et donc, ça n'est pas faire table rase. Hein. Il me semble que sur toutes ces questions, quand on réfléchit sur la gauche, on a besoin au contraire de reprendre toute cette histoire dans sa complexité, dans les problèmes qu'elle pose, mais de réinventer l'ensemble des réponses à ces questions-là. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raccourci, que c'est un vaste chantier, mais que dire... Il faut que, bon, on est dans un lieu qui s'appelle le renouveau, pour qu'il y ait un renouveau de la gauche, ça suppose de trouver au moins des débuts de réponse à l'ensemble de ces questions qui sont des questions existentielles, vitales, si on veut que, effectivement, la gauche soit pas une notion qui pourrisse dans son coin, dans un placard de la social-démocratie, mais soit une valeur porteuse pour le combat de tous les opprimés, dominés, exploités.
Merci Francis. Moi je veux simplement rebondir et à la fois conforter certaines des choses que dit Francis et aussi peut-être donner des éléments complémentaires. Pourquoi on m'a demandé d'animer cet atelier? C'est aussi parce que le LEM que j'anime a fait un travail l'année dernière sur le Parti Socialiste qui a donné lieu à une brochure. Regard sur le Parti Socialiste aujourd'hui, et on a vu que les choses ont évolué de façon accélérée depuis un an. On est en train de retravailler à la réécriture de cette brochure, mais justement, on n'a voulu pas en rester au Parti Socialiste, et on va étendre l'étude, notre étude à la gauche. Donc, ce que je vais vous dire... fait écho à ce travail en cours et où on a travaillé de façon précise sur beaucoup de choses. Bon, d'abord, je voudrais, après Francis, dire que la notion de gauche est vraiment une notion politique et historique et qu'elle est en évolution et qu'il ne faudrait surtout pas qu'on en donne une définition figée et non évolutive et que c'est, au fond, c'est une notion, comme beaucoup des notions politiques, l'objet d'un combat, d'une bataille avec des forces qui s'en emparent et qui essayent de soit de la mettre en cause, soit de la faire disparaître, soit de se l'approprier. Bon, il y a beaucoup de choses qui jouent. Et je dirais, dans cette évolution, comme l'a dit Francis, la notion, notamment à propos de l'affaire Dreyfus, la notion de gauche est née sur la base de la notion de progrès, sur la base de la défense des libertés, sur la base de la défense de la République. Et évidemment, je pense, pour ma part, que ça ne suffit plus. C'est aussi ça qui fait la faiblesse et qui crée la crise, parce que au jour d'aujourd'hui, ça n'était pas le cas il y a quand même un siècle et demi. La question de la mise en cause du capitalisme, on le sent, devient le problème. Et évidemment, au moment où ça devient le problème, on a une évolution, surtout en France, mais on pourrait dire en Europe, de la social-démocratie, partie dominante de la gauche aujourd'hui en France, qui fait l'évolution inverse, si je puis dire. Elle se déclarait plus, même si on peut discuter de son caractère anticapitaliste, même dans les années 60 ou 70, mais elle se déclarait vouloir être en rupture avec le capitalisme, et maintenant elle a fait le mouvement inverse de droitisation dont parlait Francis. Donc au moment où de plus en plus monte l'idée qu'il faut s'attaquer vraiment là au système et aller vers une autre société, qu'on l'appelle socialiste, communiste ou quoi d'autre, peu importe les mots, une partie importante de la gauche, quand je dis importante, dominante des fois, fait le chemin inverse. Donc ça exacerbe d'autant plus. On ne peut pas seulement... le jeu ne se fait pas autour des questions de liberté, encore que même sur ces questions, le mouvement aussi du Parti Socialiste est discutable, avec cette façon de combattre le terrorisme, entre guillemets, bon, et beaucoup de choses. Bon. Donc y a vraiment... Il faut qu'on regarde en profondeur. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque... C'est que si on parle de la classe, si on parle du peuple, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, on l'a beaucoup regardé, et notamment, il y a eu deux études importantes qui nous ont nourris. Il y a une étude très importante qui a été menée par Henri Rey, notamment, et qui a regardé l'évolution des électeurs. Ils ont pris un panel d'électeurs très important. Qu'ils ont suivi pendant un an et demi de la campagne des présidentielles, des dernières présidentielles, pour voir ce que devenaient les électeurs. Ce qu'ils aient dû de un an avant le début du vote jusque six mois après. Bon, il y a quelque chose de très important politiquement, je pense que c'est que, d'une part, il n'y a pas eu, dans toute cette période, alors c'était 2012, depuis les choses ont bougé, mais en 2012, en 2011-2012, il n'y a pas eu pratiquement de mouvement entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que ceux qui se déclaraient votant à droite ou à l'extrême droite, au début, ont fini... Pareil, et je dirais la même chose à gauche. Par contre, les mouvements internes à ces deux partis, eux, ont été importants, et notamment à gauche. Notamment à gauche, où le seul candidat, d'ailleurs, qui a gagné au cours de l'élection, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qui est parti bas et qui a fini beaucoup plus haut qu'il n'était parti. Et pourquoi ? Parce qu'il a gagné des électeurs de gauche qui n'étaient pas les siens au début de la campagne. Et il les a gagnés d'abord au Parti Socialiste. D'abord au Parti Socialiste, en nombre, en quantité, c'était les électeurs de François Hollande. Et sur une base qui touche au contenu, et aussi à la façon de voir le changement. C'est-à-dire... est-ce que on est dans un grand soir, ou est-ce que dans la recherche d'un grand soir, ou est-ce qu'on est dans la recherche d'influencer la gauche, en fait, d'être dans un processus pour faire évoluer les choses dans le bon sens. C'était leur motivation, la motivation du transfert. Donc je pense qu'on a à réfléchir aussi, si on veut en trouver des objets politiques dynamiques et qui nous aident à avancer, on a à réfléchir. Soit dit en passant, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, et notamment même dans la gauche et même chez les communistes parfois, il y a un éloignement politique entre les électeurs d'extrême droite et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont d'accord sur des choses dont on parle souvent, la rupture avec le système, la mise en cause de l'Europe, etc. Mais quand on regarde derrière ces quelques quelques notions qui les rassemblent, c'est pas du tout pour faire la même chose. Et notamment, bon, alors hier, il y avait une conférence là-dessus sur une nouvelle enquête que sort la Fondation Gabriel Péri sur l'évolution de ce que pensent les gens. Je dis une nouvelle enquête parce que ça fait 50 ans, 40 ans qu'ils en font sur le même thème, donc avec les mêmes questions, donc on voit l'évolution vraiment sérieuse. Bon, bah, je dirais que les électeurs du Front National sont, comme ils les appellent, xéno-autoritaires, c'est-à-dire contre l'étranger pour la culture du chef, je dirais, et que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'inverse. Bien sûr, ils sont tous les deux anti-système, mais pas pour la même chose, je dirais. Et donc, espérer, par un raccourci saisissant, la rencontre des deux électorats, moi, me paraît non seulement hypothétique, mais extrêmement dangereux politiquement. Donc, il y a encore la gauche et la droite, même si, depuis 2012, le ni droite ni gauche monte dans le peuple, des gens qui s'auto-déclarent ni droite ni gauche, le nombre de ces gens-là augmente depuis 2012, et surtout à gauche, et c'est compréhensible, parce qu'ils ils sont déçus par ce qui se passe. Il y a quand même, dans le peuple, ce clivage gauche-droite existe beaucoup, et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est ce clivage gauche-droite qui, pendant un temps, a nourri le vote utile en faveur du Parti Socialiste, puisque en permanence, le Parti Socialiste jouait sur si vous êtes de gauche et si vous voulez avoir un vote utile, votez pour le parti dominant. Bon, hein, je résume, mais c'était ça. Soit dit en passant, c'est pas obligatoirement fatal, puisque en 2005, on se souvient que nous avons fait nos succès au référendum en disant quand on est de gauche on vote non, donc les choses sont sur des objets précis sont possiblement en évolution. Et ma dernière remarque, c'est pour appuyer ce que dit Francis, quand on réfléchit à la notion de gauche mais plus généralement à la politique, il faut absolument qu'on allie deux notions, le contenu et le rassemblement qui va avec. Quelles alliances ont... Parce que créer un contenu sans s'interroger sur les forces qui peuvent soutenir ce contenu, je suis un peu brutal, mais ne sert à rien, ou en tout cas est inopérant politiquement. Comment on fait changer les choses? Bah, c'est en articulant les deux, justement. Contenu et rassemblement qui va avec, et un rassemblement de forces suffisamment nombreuses pour affronter l'adversité. Si on n'abandonne pas, on en parlait à propos de la Grèce, si on n'abandonne pas l'idée de la question du pouvoir, d'être au pouvoir, de faire des réformes révolutionnaire, progressiste, de rupture avec l'État existant. Maintenant, depuis la Grèce, si on en doutait, on sait qu'on va rencontrer des adversaires, et des adversaires déterminés. Si on n'a pas un point d'appui populaire massif, on ne passe pas la rampe. Et même si on en a un en Grèce, on ne passe pas la rampe. Il faut un point d'appui populaire à l'échelle de l'Europe maintenant, et même au-delà. Donc, définir des contenus indépendamment du rassemblement qui va avec, ça ne marche pas, et réciproquement, le rassemblement doit nous aider aussi à définir les contenus et à chercher les voies de la transformation et à construire, au fond, à reconstruire, bon, le renouveau, à reconstruire de la politique. Et singulièrement à gauche, puisque là, il y a un désarroi. Et on peut à l'envi parler de la gauche, des gauches. Il faut parler des deux, d'ailleurs, tout le temps. Mais surtout, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que ne pas, par des formules trop rapides, s'exclure du débat de la gauche. Parce que, par exemple, la notion de gauche de la gauche, moi, me fait très peur. Parce que, à notre corps défendant, on laisse la gauche au PS, quand même, en faisant ça. Donc, il faut à la fois dire qu'on est différent, mais avoir l'ambition et affirmer l'ambition qu'on veut être la gauche. Et qu'on veut être une gauche pas seulement radicale, mais qui veut changer le système anticapitaliste. Parce que c'est ça aussi l'avenir de la gauche. Et que s'il n'y a pas cette évolution, et il faut porter le débat chez les autres, ce qu'on a commencé à faire, ce qui crée quand même des effets. Alors, l'éclatement des Verts, les discussions au PS, tout ça n'est pas indépendant de nos efforts pour reparler de ce que devrait être la gauche. Donc je pense que c'est un sujet très important. Mon dernier mot, et c'est pour soutenir Francis, il faut le faire au nom du changement, au nom de la satisfaction des besoins des gens, au nom de l'évolution, pas au nom de sauver la gauche. Ils s'en foutent. Je veux dire, les gens s'en foutent. On ne va pas leur demander à eux de traiter le problème qui est le nôtre, le problème des partis et tout ça. Donc l'accrochage, ça ne peut pas être un accrochage d'arbitré entre le Parti Socialiste et nous, ou entre à l'intérieur du Front de Gauche ou autre truc. Non, repartir des contenus, repartir des éléments de transformation et repartir des forces qui peuvent être d'accord sur des mobilisations communes sur du sujet et reconstruire de la politique, comme il a été dit, en dialectique avec les luttes. Mais en n'espérant pas seulement des luttes. Les luttes sont absolument nécessaires, mais si on ne reconstruit pas de la politique, la mayonnaise ne prendra pas et la crise continuera et le capitalisme sera bien gardé.